Bienvenue au test d'aptitude en langue française. Remplissez le haut de ce livret en écrivant en majuscule et lisiblement votre nom, votre prénom, le prénom de votre père, ainsi que votre date de naissance. Puis ouvrez ce livret à la page 2 et suivez les consignes. Première consigne. Ce test comprend 4 sections qui sont dans l'ordre. Section 1, compréhension orale. Section 2, expression écrite. Section 3, lexique et structure. Et enfin, section 4, compréhension écrite. Deuxième consigne. Pour marquer votre réponse, il vous suffit de mettre un X dans la case qui suit la lettre qui correspond à votre réponse. Troisième consigne. Pour chaque question, donnez une seule réponse. Si vous décidez de changer votre réponse, effacez bien la première, puis mettez la seconde. Quatrième consigne. Essayez de répondre à autant de questions que possible. La note sera basée uniquement sur les réponses correctes. Cinquième consigne. Vous n'utiliserez les feuilles de couleur que pour les sections 1 et 2 de ce test. Elles vous serviront de brouillon. Il est interdit de les détacher. Sixième consigne. Pour la section 2, expression écrite, vous rédigerez les exercices A et B sur les pages 7 et 8 après les feuilles de couleur. Septième consigne. À la fin du test, vous remettrez ce livret au surveillant. Huitième consigne. Maintenant, vous allez commencer votre test avec la compréhension orale. Ouvrez votre livret à la page 3, section 1, compréhension orale, et suivez les consignes. Section 1, compréhension orale. Question 1 à 10. Vous avez une minute pour lire les questions 1 à 10, imprimé ci-dessous. Vous allez ensuite entendre un message deux fois. Ne prenez pas de notes, mais répondez aux questions au fur et à mesure du message, dès la première écoute. Cochez la bonne réponse dans la case correspondante. Vous avez maintenant une minute pour lire les questions 1 à 10. Écoutez le message et répondez au fur et à mesure aux questions 1 à 10. Première écoute.
L'homme ne se contente pas de ce qu'il a. Il a toujours le désir de posséder ce qu'il ne possède pas. Il est certain que ce besoin du plus, du davantage, trouve sa cause principale dans la nature essentielle de l'homme. Nous sommes tous des êtres de désir. Et en tant que tels, nous sommes continuellement en manque. Quand on vit dans un taudis, on rêve de châteaux, de jardins et de grands luxes. Quand on est empereur, on rêve de maisons intimes, de forêts profondes et de vraies libertés. L'homme ordinaire cherche la gloire et les stars souffrent de ne pas être comme tout le monde. Cependant, la forme la plus courante du désir humain est l'ambition. On connaît bien les histoires de ces gens ordinaires qui veulent toujours arriver, réussir, gravir l'échelle sociale. On a besoin d'être plus intelligent, plus riche, plus fort. On cherche à être reconnu, admiré, respecté. Qu'on s'appelle Julien Sorel, Vautrin ou Tartuffe, on fait partie de la même famille de ces insupportables parvenus qui continuent à hanter le monde. Et si l'ambition devient violente, démesurée, elle peut transformer l'homme en un dangereux conquérant. L'histoire a vu défiler ces grands ambitieux, assoiffés de pouvoir, de conquête et de victoire. Alexandre le Grand, Jules César, Napoléon, Hitler et tant d'autres. Dans ce cas, l'ambition atteint la folie des grandeurs, c'est-à-dire la mégalomanie, qui constitue une véritable menace pour les autres. Pourtant, en dehors de ces ambitions maladives, le désir de plus reste une source de motivation pour l'homme, qui peut non seulement donner un sens à sa vie, mais surtout le conduire à réaliser le meilleur de lui-même.
Deuxième écoute.
L'homme ne se contente pas de ce qu'il a. Il a toujours le désir de posséder ce qu'il ne possède pas. Il est certain que ce besoin du plus, du davantage, trouve sa cause principale dans la nature essentielle de l'homme. Nous sommes tous des êtres de désir, et en tant que tels, nous sommes continuellement en manque. Quand on vit dans un taudis, on rêve de châteaux, de jardins et de grands luxes. Quand on est empereur, on rêve de maisons intimes, de forêts profondes et de vraies libertés. L'homme ordinaire cherche la gloire et les stars souffrent de ne pas être comme tout le monde. Cependant, la forme la plus courante du désir humain est l'ambition. On connaît bien les histoires de ces gens ordinaires qui veulent toujours arriver, réussir, gravir l'échelle sociale. On a besoin d'être plus intelligent, plus riche, plus fort. On cherche à être reconnu, admiré, respecté. Qu'on s'appelle Julien Sorel, Vautrin ou Tartuffe, on fait partie de la même famille de ces insupportables parvenus qui continuent à hanter le monde. Et si l'ambition devient violente, démesurée, elle peut transformer l'homme en un dangereux conquérant. L'histoire a vu défiler ces grands ambitieux, assoiffés de pouvoir, de conquête et de victoire. Alexandre le Grand, Jules César, Napoléon, Hitler et tant d'autres. Dans ce cas, l'ambition atteint la folie des grandeurs, c'est-à-dire la mégalomanie, qui constitue une véritable menace pour les autres. Pourtant, en dehors de ces ambitions maladives, le désir de plus reste une source de motivation pour l'homme, qui peut non seulement donner un sens à sa vie, mais surtout le conduire à réaliser le meilleur de lui-même.
Questions 11 à 15. Observez durant une minute le tableau ci-dessous. Vous allez maintenant entendre une seule fois un message. Remplissez le tableau au fur et à mesure de l'écoute. Attention, ne mettez qu'un seul mot par case.
Parlez-nous, je vous prie, de ce qui vous fascine le plus dans les albums de Tintin.
Ah, la question est très large. Il m'est difficile de vous répondre en si peu de temps. Mais je peux quand même vous dire que le personnage de Tintin me fascine depuis que j'ai 13 ans. On ne sait pas vraiment qui il est, quel est son âge, quelle est sa profession, ou encore, on n'est jamais mis au courant de ses sentiments, de ses états d'âme. Mais derrière le personnage de Tintin, il y a aussi son créateur, Hergé, qui a inventé tout un monde d'aventures. C'est ce monde varié, multiple, exotique, qui continue à m'émerveiller aujourd'hui. Le voyage, prétexte à une foule de découvertes, est une règle d'or observée par Hergé. Propulsé dans des aventures aux multiples rebondissements, Tintin traverse les sites les plus remarquables, les sables du Sahara, les glaciers himalayens, les landes d'Écosse, les forêts d'Amazonie. On sait que le désert relève particulièrement d'un traitement assez angoissant. Tintin manque d'y mourir de soif plus d'une fois. C'est à travers les manifestations climatiques les plus extrêmes que Tintin me fait vivre des moments intenses. La représentation des orages est sans doute le domaine dans lequel Hergé excelle, avec une économie de moyens. Grondement du tonnerre, arbres courbés par le vent, volets qui claquent, etc. Enfin, mon voyage le plus dépaysant avec Tintin est celui qui nous a conduit jusqu'à la Lune, avec l'étoile mystérieuse et son énigme d'ordre astrophysique. Je crois que vous savez maintenant comment chaque album de Tintin est une perpétuelle invitation au voyage en compagnie d'un audacieux explorateur et dans le plus ludique des atlas.
Questions 16 à 25. Vous allez entendre un message une seule fois. Prenez des notes sur les feuilles de couleur, puis répondez aux questions 16 à 25. Attention, vous utiliserez vos notes dans la section suivante. Vous avez maintenant une minute pour lire les questions 16 à 25. Écoutez le message et prenez des notes, puis répondez aux questions 16 à 25.
Tu ne comprends pas, Salma. Seuls les sentiments parlent en toi, et la vie est faite autrement. Avec les sentiments, on ne va jamais très loin dans ce monde.
J'ai pourtant vu, Assad, ce monde sans pitié. J'ai vu les horreurs de la guerre.
Tu regardes trop souvent la télévision. Ce que tu ne vois pas, c'est que la guerre est parfois nécessaire.
Nécessaire? J'ai vu des enfants mourir au bout de vos fusils.
La guerre est toujours sale, c'est vrai. Mais parfois les hommes doivent mourir pour avoir un monde meilleur.
Rien ne justifie la mort de l'innocence, même pas l'amour de la patrie.
L'homme n'est rien sans sa patrie. Il ne peut s'épanouir et vivre dignement que dans un état fort, puissant et indépendant. On fait cette guerre, Salma, pour que nos enfants grandissent dans la liberté.
Quelle liberté? Une liberté retrouvée au prix de milliers de morts, de la haine, de l'intolérance? Écoute-moi bien, Assad. Cette liberté faite sur les décombres de l'humanité, je n'en veux pas.
Ton cri, Salma, est un cri de peur. Tu ne veux voir que l'horreur de la guerre. Tu ne vois pas l'horreur de la soumission.
On exagère toujours la soumission, et on mythifie toujours l'indépendance et la liberté. La vraie liberté, Assad, c'est celle de ton âme.
Il n'y a pas d'âme en dehors du monde réel. Quand tu vis dans l'humiliation, quand tu ne peux plus parler, faire entendre tes droits, quand tu ne peux plus agir, ton âme se tait. Et c'est ton corps qui crie justice, c'est ton corps qui veut se battre. La guerre est alors inévitable.
La guerre n'est jamais inévitable. Les hommes manquent d'imagination, tout simplement. Et toi, tu es comme les autres. Tu ne sais même pas qu'on peut se battre autrement qu'en prenant les armes.
Oui, c'est ça. Tu vas me sortir maintenant tes théories pacifistes sur la lutte non armée.
Il faut parfois plus d'énergie, de volonté, de force pour choisir la paix. Il faut aussi plus d'intelligence pour lutter par la parole, par la pensée, par l'esprit. La lutte de l'esprit est plus efficace que la lutte des armes.
Rien ne peut arrêter les armes que les armes. Gandhi n'est qu'un accident de l'histoire. Je te le répète et je te le dirai toujours, Salma. La guerre est nécessaire et l'homme doit se battre pour se dépasser.
Oui, Assad, l'homme doit se battre pour l'homme et non contre l'homme. Qu'il ne se batte plus jamais qu'avec les feux de la tendresse.
Il vous reste 2 heures pour terminer ce test.